That boy with me on the riverside is soft and warm and wild, that boy with me on the riverside is pure gold inside, inside. Je sais que tu crois que c'est pas fini, mais moi je sais que ça l'est déjà. On n'aura pas de discussion autour de la table de la cuisine, parce qu'on n'aura pas de cuisine, parce qu'on n'aura jamais de chez nous. Je rencontrerai pas tes amis, et tu rencontreras pas plus les miens. On lira pas le journal au lit, on n'ira pas marcher l'été prochain. Tu rencontreras jamais ma sœur, et je te rendrai jamais tes livres. Non, on va juste se briser le cœur et finir un peu i. Ouais, on va juste se briser le cœur et finir très très ivre. Non, ce qui se passera, c'est qu'on se verra encore. Et puis, on se verra plus. Et un jour, je mettrai ta photo dans une boîte à chaussures que je rangerai sous mon lit pour oublier ton visage. Let's stand still, there's a support. 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 Let's dance. Merci, bonne soirée et bonne écoute de tous les groupes. Aujourd'hui, nous partons retrouver Hildegarde, alias Cécile, Morgane et Clara, le trio de spoken word nantais sélectionné cette année pour le tremplin des Inouïs.
Elles nous ont donné rendez-vous devant le blocos DY10 sur l'île de Nantes, lieu où le groupe s'est formé.
Et donc là, on voit le blocos sur sa tranche et avec des escaliers qui surmontent chaque porte. Voilà, escaliers dans lesquels on a du coup patienté pour... Je me souviens, c'était trop mignon. Bah, avant notre concert au blocos, et on était là, toutes les trois, et avec nos potes, à stresser et à voir les gens arriver et tout. Le mur, il est dégueu. Il a un aspect de guerre froide, avec du coup des tiges métalliques qui sont apparentes. Voilà, puis des petits travaux d'art, hein, je dirais. Là, il y a une petite ardoise avec une sorte de cœur dessus et écrit « Only love ». Parce que blocos, on est dark, mais pour l'amour...
Attends,
referme.
Ah ouais, c'est bien.
Et donc là, c'était l'entrée du studio qui est privatisé pour des groupes.
D'accord.
On rentre par la porte à gauche. Il y a tout un tas d'instruments plus ou moins rangés qui appartiennent plus ou moins à des gens alors qu'ils sont là depuis bien longtemps. Et ensuite...
Bonnet de quelqu'un qui est perdu depuis bien longtemps, je pense.
1992.
Ou avant la chute du mur,
Et sur la porte,
qu'est-ce qu'il y a écrit sur la porte ? Les auditeurs n'existent pas, c'est une illusion collective, comme Dieu quand il était à la mode. Voilà. En studio de répétition, juste à côté, il y a un lieu qui accueille des concerts tous les vendredis qui s'appelle les 7:30. C'est à 19h30 et ça dure 30 minutes avec un vrai chrono. Et à l'étage, il y a aussi des studios de mix, d'enregistrement. D'ailleurs, on a eu notre première cassette de notre première résidence qui a été enregistrée ici. Les murs sont super épais, donc en fait, quand t'es dans une pièce, tu peux pas savoir qu'il y a d'autres gens à côté, donc c'est ça qui est assez déroutant. Tu peux avoir, je sais pas qui fait de la scie sauteuse à côté, et toi, tu fais de la musique hyper fort, et en fait, chacun est un peu isolé dans son truc.
Et vous, Morgane, quand est-ce que vous avez découvert ce lieu ?
Moi, la première fois que je suis venue ici, je devais avoir 15 ans, je pense. Voir un de mes premiers concerts. Et je crois que c'était un concert de Crash Normal.
Ah ouais ?
Vous voyez ça ? C'est un crochet, en fait. Je sais pas à quoi ça servait, mais il y a pas mal de crochets. Je pense c'est pour faire passer les câbles. C'est très bas de plafond. Il y a quoi, de 2,10 m, je pense. Et en fait, le gars avait sauté. Il s'était pris le crochet dans la tête, tombé au sol. Et j'étais genre, le rock'n'roll, c'est ouf ! Ouais.
Et vous, Cécile ?
La première fois, je pense, c'était en 2014-15, voire des 7:30. Et je trouvais que le lieu était incroyable et tout le monde m'impressionnait là-dedans. J'étais là genre, waouh, c'est des ouf, ils font de la musique, mais c'est pas de la musique comme d'habitude. Et puis, c'est des gens tous un peu mystérieux et tout, c'était assez rigolo. Et quand on a rencontré les gens petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient pas si mystérieux que ça, ils étaient surtout très gentils. Et quand on a pu accéder à ce lieu pour répéter, c'était une sacrée chance parce que c'est difficile de trouver des lieux de répète à Nantes. Et là, ouais, on a senti quand même un super soutien de la part des gens ici pour nous accueillir. Aussi parce qu'il y a encore 3 ans, et ben, il y avait quand même très peu de femmes dans le blocos.
Et ça, tu vois, c'est le timer du 7:30.
Le timer du 7:30.
Mmh. Donc ça dure du coup pile 30 minutes.
Les gens, ils arrivent par là. Donc il y a une entrée, t'as toujours un caddie de course avec des canettes.
C'est 3 euros.
Et donc c'est 3 euros et t'as une canette. Voilà, donc tu rentres par là. Tac, tu donnes tes 3 balles, t'as ta canette, et donc le 7:30, il est souvent à gauche.
Et vous, Clara, quelle est votre histoire avec ce lieu ?
La première fois que je suis arrivée ici, c'était pour notre première répète ici, quoi. C'était ouf. Moi, déjà, j'adore les blocos de manière générale. Et c'est vraiment des endroits où je me sens bien. Et notre 3e concert, c'était ici. Et là, c'est le moment où j'ai vraiment kiffé, parce qu'on avait fait un super concert. Le blocos était blindé. Et je me souviens de m'être dit à ce moment-là, je vais rechercher toute ma vie dans tous les autres concerts, quoi. Voilà, t'es dans une cave, les gens sont très proches de toi, c'est trop bien, quoi.
Plus le bruit, hein.
Plus le bruit, ouais.
Ça, c'est vraiment dommage.
Ça, c'est vraiment dommage.
Vous avez bien vendu. Tu
vois, j'ai mis...
Soirée spéciale, les Inuits du printemps de Bourges.
Et on en sait donc un peu plus sur Hildegarde grâce à ce reportage signé Elsa et Anna de E-Radio. Bonsoir Elsa et Anna.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur le plateau et on va vous laisser la main pour interviewer donc Hildegarde qui nous a rejoint.
Oui, on est ravis de retrouver Hildegarde. Rapide comme l'éclair, elle vient de nous rejoindre sur le plateau en direct des Inouïs. Enfin, une partie. Pour l'instant, nous sommes avec Clara. Bonsoir Clara, bienvenue.
Bonsoir.
Merci. Alors, vous intéressez juste de la scène, on va redescendre tranquillement avec vous. Comment ça va là, post-concert ?
Plutôt bien, débarrassée d'une petite dose de stress. J'ai pas mal de dopamine et d'adrénaline dans le corps, c'est pas mal.
Ça représentait quoi pour vous ce soir de faire partie des sélectionnés pour le tremplin des Inouïs ?
Eh bien, ça représente plusieurs choses. J'imagine une certaine chance déjà parce que ça permet de diffuser notre musique à peut-être plus de gens. Donc c'est toujours chouette, c'est un peu le but. Et puis je pense qu'il y a un petit côté validant aussi un peu parce que c'est vrai que quand on travaille en groupe, on est souvent on est entre nous, on est toutes les trois. Et donc, je pense que le fait d'être sélectionnée à des... Là, par exemple, aux Inouïs, je pense que ça nous aide à nous dire « Ah ouais, si, quand même, ça tient à la route ce qu'on fait. » Voilà.
Donc, derrière Hildegarde, un trio et des amitiés. Si je ne m'avance pas trop, Clara Coudray au chant, Cécile Aurégan derrière le synthé et Morgane Poulain à la batterie.
Exactement.
Et derrière Hildegarde, donc aussi un lieu de naissance, Nantes, et une date 2020. Racontez-nous en quelques phrases, c'est quoi, au départ, Hildegarde ?
Eh bien, au départ, Hildegarde, donc ouais, c'est une amitié un peu de longue date. Moi, j'étais amie avec Cécile depuis très longtemps. Cécile a rencontré Morgane aussi il y a quelques temps. Voilà, donc on se connaissait toutes les trois, mais par des biais différents. Et en fait, c'est le Covid et le confinement. Toute cette période-là, en fait, qui a fait ralentir nos vies et qui nous a permis, du coup, de nous retrouver. Et de dégager du temps pour pouvoir répéter. Donc, en fait, à la base, c'était Cécile et Morgane qui ont discuté toutes les deux un jour à Paris, je crois, de monter un groupe. Et donc, elles avaient besoin de quelqu'un pour faire la voix, pour chanter. Et du coup, elles m'ont proposé. Et voilà, et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à Nantes pour faire ça.
Hildegarde, c'est donc le nom que vous avez donné à cette aventure. Mais attention pour nos auditeurs, auditrices, Hildegarde ne s'écrit absolument pas comme Hildegarde de Bingen, la fameuse abbesse médecin du XIe siècle. Non, Hildegarde s'écrit comme l'île du nord de l'Italie, Hildegarde. Est-ce que ce nom vient de là ?
Eh bien non, le nom vient d'Hildegarde von Bingen.
Ok.
On a fait un jeu de mots par la suite, notamment parce qu'il y avait déjà des groupes qui s'appelaient comme ça, je crois. Mais c'était en référence à Hildegarde von Bingen, donc pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on avait envie d'un nom très féminin. Voilà, on avait pensé d'abord à des déesses, à des entités mythologiques, mais il n'y en avait aucune qui nous convenait. Et finalement, on s'est dit qu'Hildegarde von Bingen, ça collait bien parce que je pense qu'on est toutes les trois. Enfin, je ne veux pas parler pour les deux autres, mais je pense qu'on a toutes les trois un sens un peu du sacré. Et donc, voilà, le clin d'œil à Hildegarde marchait bien. Et puis aussi, pour le côté un petit peu allemand, voilà, on trouve qu'il y a quelque chose dans notre musique à base de synthé répété dans un blockhaus qui fait un petit peu Berlin. Et donc voilà, c'était un petit peu pour toutes ces raisons-là.
Et ce soir, donc, on a eu l'occasion de vous entendre sur scène, scène que vous avez l'habitude de fouler. Vous avez joué à Paris, à Bruxelles, à Rennes, la Turballe, Rezé ou Nantes. Clara, vous nous avez donc même expliqué pendant le reportage, que, dans le Blockhaus, que c'était l'un de vos préférés, enfin le concert au Blockhaus, pardon. Et ça représente quoi, la scène pour vous, le public ? Est-ce que ça influence vos musiques ? Ou est-ce que, comme on l'a entendu dans le reportage, les auditeurs, finalement, n'existent pas ?
Eh bien, très bonne question. Je pense qu'on est toutes les trois assez différentes là-dessus. Je pense que donc j'ai parlé pour moi, je peux pas dire pour les autres. Moi, le rapport que j'ai à la scène, c'est alors comment dire, c'est compliqué. En fait, moi, je prends pas en compte les auditeurs quand j'écris les paroles ou quand je décide comment je vais les interpréter. Pas du tout, vraiment le moins possible. J'essaie vraiment de ne pas avoir du tout ce questionnement-là. Parce que ça me paraît, je ne sais pas, probablement plus sincère. Je n'ai pas envie En fait, moi, je fais ça presque de manière thérapeutique pour moi-même, d'écrire tout ça. Et donc, si je commençais à prendre en compte trop l'avis des gens, je pense que ça dénaturerait les choses. Voilà, mais je pense qu'on peut demander à Cécile qui vient de nous rejoindre ce qu'elle en pense.
Quelle est la question ? Alors, donc on parlait de votre rapport à la scène et on voulait savoir en fait si votre, si le public influence votre manière de jouer sur scène finalement.
Forcément, ça peut influencer, ça peut donner du courage quand il y a du monde qui est content et ça peut décourager quand il y a personne. Mais il faut pas jouer, il faut jouer pareil pour 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes. Le plus important, c'est nous trois, quoi. Enfin, il faut qu'on. Je sais pas ce que tu as dit avant, mais en tout cas, c'est ce que je pensais aussi.
Ouais, j'ai dit que oui, je faisais pas trop. Enfin, je prenais pas en compte, en tout cas dans la création, mais c'était pas. Je réponds pas à la bonne question parce que vous parliez de la scène, du coup.
Ah oui, ouais, la scène, non, c'est nous trois. Il faut surtout qu'on rigole, nous, sinon ça sert à rien. On travaille pas autant pour ne pas se marrer sur scène. Je peux me rapprocher du micro, pardon.
Vous parliez de création. Dans vos chansons, on sent que vous apportez une attention vraiment particulière à l'écriture, autant le contenant que le contenu, j'ai envie de dire. Vos textes prennent une place importante. On sent une vraie recherche au niveau de la prononciation, de la diction, mais aussi de l'incarnation des mots par vous, Clara, mais aussi par vos instruments, Cécile, mais aussi Morgane, qui n'est pas là. Est-ce que c'était une volonté dès le départ ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure des répètes et,
Je pense que le fait que moi je suis seulement chanteuse ou l'autre fois on avait trouvé un bon terme, c'est plutôt une narratrice en fait qui bon parfois je chante mais parfois je crie, parfois je chuchote, enfin rappelez-moi la question.
C'était est-ce que c'était une volonté dès le départ en fait cette place au texte et cette place à l'écriture?
Oui, je pense que c'est le troisième instrument.
Ah bah il y a pas de compo sans texte. Enfin en tout cas il y a eu aucun morceau où on s'est dit oh, on s'en fiche du texte, vas-y dis n'importe quoi, c'est pas très grave. Enfin tout a une importance, tout a sa place quoi.
Si... Et puis, je suis pas capable de dire n'importe quoi de toute façon.
Et quand on lui a demandé de le faire, elle a dit non. Donc voilà, c'est tout.
Est-ce que vous écrivez d'abord les textes et après vous composez ou est-ce que c'est l'inverse ou c'est simultané?
C'est plutôt l'inverse. En fait les filles On a, ça dépend des morceaux. On a composé de manière différente pour plein de morceaux. Mais moi, en tout cas, ma manière préférée, c'est quand les filles proposent quelque chose. Mais moi, je suis là, je suis à côté souvent, donc voilà. Et moi, après, je vois des images dans ma tête. Et du coup, de ce que ça m'inspire. Et après, j'écris le texte. Donc généralement, je suis par terre dans le blocus en train d'écrire les trucs pendant qu'elle répète ce qu'elle vient de trouver.
C'est génial parce que entre nous, ce qu'on compose et ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, on est toujours extrêmement étonnés. Je pense que par exemple Edgeless était un des tout premiers morceaux, c'était vraiment épique. À la base on aime beaucoup la musique de film, alors on avait envie de faire des choses hyper entraînantes et là, on ne l'avait pas dit forcément à Clara. Et quand elle a écouté Jess Woman, elle a fait « Mais là, je vois 2 prêtresses qui arrivent et qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il faut sur Terre? C'est de la merde !» Du coup, je vais faire un texte là-dessus. Et le lendemain, elle a fait « Dressed in blue, standing on lion hearts. » Et on était là « Ah ouais, c'est pas mal, ouais, c'est super. » Voilà, il y a juste eu, je crois, Homicide volontaire, où ça a été l'inverse. Où après avoir lu un article sur un énième féminicide, j'ai pleuré toute la journée. J'ai dit « Je crois que j'ai envie qu'on se venge dans une chanson et je crois qu'on a envie que ça s'appelle homicide volontaire. » Et vu que les filles écoutent beaucoup « Faites entrer l'accusé », on s'est dit qu'on allait la faire sous forme d'enquête. Et là, Clara a pu écrire cette enquête merveilleusement bien.
Oui, justement, par rapport à Homicide volontaire, Hildegarde, c'est aussi un groupe de femmes dans un milieu qui a longtemps été très masculin. Et on me dit dans l'oreillette qu'il n'échappe pas au patriarcat. Si on prend nos lunettes de sociologue, on pourrait dire que votre groupe serait dans ce milieu politique en soi, mais aussi politique pour soi. Donc vos textes sont aussi engagés, comme Homicide volontaire dont vous parlez. Alors j'avais envie de vous demander, ça représente quoi pour vous, en tant que trio de femmes, d'évoluer dans ce milieu ?
Ça représente, pour moi en tout cas, une oasis. Vraiment. Enfin, alors, la question, c'est qu'est-ce que c'est d'être que des femmes dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes ? À vrai dire, je pense que nous, on le vit assez bien. D'une part, parce qu'on vit quand même une époque, je pense, où c'est bien plus facile que ça ne l'a été. Et puis ensuite, nous, on est trois femmes. C'est vraiment autre chose. Moi, parfois, on voit des groupes qu'on croise comme ça sur les scènes, et on voit qu'il n'y a qu'une seule femme, par exemple, dans le groupe. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué quand tu es la seule fille d'un groupe. Mais nous, on arrive, on est toujours trois femmes.
Quoi. Ça fait bouclier ?
Donc, en fait, on est vraiment un crew. Ça fait bouclier, exactement. Donc, voilà. Après, je pense que c'est plus dans l'organisation, vraiment, du groupe, qu'on voit une différence entre les groupes d'hommes et les groupes de femmes, je pense.
On a côtoyé beaucoup de groupes d'hommes, et c'est vrai qu'on est beaucoup mieux organisés.
Ça va se jouer comment ? C'est par rapport aux scènes,
mais
par
ils
exemple.
Jouent du garage, c'est normal, c'est parce que c'est le bordel.
Moi, je pense que c'est beaucoup sur la question de la communication. Je pense que voilà, la société étant ce qu'elle est, elle enseigne aux filles à communiquer dès le plus jeune âge, à repérer quand une personne va bien, va pas bien, etc. Et je pense que du coup, dans un groupe de musique où il y a beaucoup d'émotions, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enjeux, parfois il y a du stress, il faut monter sur scène, il y a de l'ego, il y a plein de trucs. Je pense que du coup, on est mieux doté à ce niveau-là en termes de capacité à communiquer les unes avec les autres, à peut-être désamorcer des conflits avant même qu'ils arrivent. Et dans le fait de prendre soin les unes des autres, en fait.
Est-ce que les groupes de musique de femmes auraient plus de chances de survivre dans le temps que les groupes d'hommes ?
Eh bien, je pense que ça dépend... Enfin, je ne vais pas me lancer dans une diatribe. Je pense que, par contre, là, aucune de nous trois n'a d'enfants. Mm. Voilà. Je pense que pour des groupes de femmes, il y a cette question-là. Mais nous, par exemple, on a déjà discuté en interne tout le planning de la maternité de chacune. Je plaisante. Je plaisante. Mais je sais pas, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de groupes de filles qui doivent peut-être.
On n'a pas beaucoup d'exemples, en fait.
Ouais,
c'est ça le truc, c'est qu'on sait pas.
Ouais.
On sait rien. Comment les slits se sont séparés ? Je ne sais pas.
Je sais pas.
On sait pas, on va faire des recherches.
On ne sert à pas de se séparer pour une engueulade.
Parfait. Et donc, pour revenir un peu à vos interprétations et à vos textes, souvent, donc il y a un aspect mystique quand même qui est assez présent, même la figure d'Hildegard von Bingen, pardon. Et donc, c'est toujours entre l'intime et quelque chose de plus structurel, style invitation dans des récits aux mémoires anciennes. Donc, vous serez en fait les gardiennes, finalement. Est-ce que c'est ça, Hildegard, pour vous ?
Je trouve que c'est assez bien décrit.
Ouais, c'est pas mal, hein ? C'est classe. Merci. Je pense que... ce qu'on fait, en tout cas, c'est important pour nous. Après, si ça parle aux autres, c'est merveilleux. Mais ouais, enfin...
Sur la question, je pense, du mysticisme et tout ça, je pense qu'on a toutes les trois grandi dans des familles où la religion ou une forme de mysticisme... voilà, on va pas débattre de ce que ça veut dire le mysticisme, mais en tout cas, il y a une forme de... On a été élevés dans des foyers où la religion... en tout cas la spiritualité a une place importante, et je pense que du coup on peut pas tomber très loin de l'arbre là, ou du pommier, je sais plus comment on dit, et du coup voilà, donc je pense qu'il y a une dimension là-dessus, mais bon, on a aussi des côtés marxistes, là on n'est pas que mystique, hein.
Non, heureusement, parce qu'on serait peut-être pas là.